Vous écoutez On lit pour vous.
Avec Gilles Vigneault, Il n'y a de vrai que l'amour, un texte de Dominique Tardif, paru le 21 juin 2025 dans la presse. Que faisait Gilles Vigneault ce lundi-là, avant que nous arrivions chez lui à Saint-Placide? Il jouait au billard au village. C'est en fait son agente qui nous accueille dans le grand atelier de son client, une vieille grange sise à quelques mètres de sa maison, sur son vaste et verdoyant terrain, où la seule musique audible est l'œuvre des poules et du vent. La légende vivante finit par apparaître quelques minutes plus tard à bord de sa mini-voiture électrique, sa poussette, comme il l'appelle. À 96 ans, l'homme est encore droit comme un chêne et semble toujours le capitaine de son bâtiment ou, si vous préférez, dans une bonne forme physique, si ce n'est que de son ouïe qui lui joue des tours. À quoi consacre-t-il ses journées? À faire des casse-têtes, à jouer au billard, à prendre soin des poules et de ses chiens, et à tenir journal, un exercice quotidien depuis 1972. Il est encore aussi ce farceur qui n'en rate pas une. Après avoir gentiment demandé à son agente d'aller jeter un œil dans sa voiture, question de voir si la casquette qu'il souhaitait porter durant la séance photo ne s'y trouverait pas, malheureusement non, le poète s'exclame « Ben, au moins, j'ai mes pantalons !» Et même s'il ne monte plus sur scène depuis quelques années, le chanteur est toujours heureux de donner en spectacle sa pensée en action, de construire des phrases à partir de mots finement choisis et de silences féconds. Ma femme dit toujours « Oh, dès que vous serez deux de plus que lui, il va partir », prévient-il en riant au début de notre entretien. « Dès que j'ai un public, des fois, souvent, presque toujours, je parle trop. » Mais Gilles Vigneault n'est évidemment pas qu'un espiègle. Il retrouve vite son sérieux en évoquant l'état du monde qui l'inquiète forcément. Il dira, en se remémorant un voyage au Liban et en Israël, « Ça fait triste de voir ce qui se passe présentement chez les authentiques nations qui entourent Israël, parce qu'il s'agit d'un génocide que je ne sais plus qui semble permettre. En tout cas, il y en a un qui est responsable en particulier, et son peuple est en train de lui faire savoir qu'il exagère. C'est très grave. » Le dictionnaire de l'amour. De cette sensibilité au sort de l'autre, il en est beaucoup question dans Gilles Vigneault au cœur du pays, un documentaire dans lequel Gilles Vigneault retourne à Natashquan en compagnie d'un confesseur de choix, Boukhar Diouf. Mais ce beau documentaire, respectueux d'une certaine lenteur propre à son œuvre, se déploie surtout comme le nécessaire rappel de l'immensité de ses chansons, ici interprétées par Louis-Jean Cormier, Ariane Moffat, Michel Rivard ou Lou-Adriane Cassidy. Je lui parle du mot « amour » qui, davantage que le mot « pays », surgit comme un leitmotiv partout dans son œuvre, plus précisément de ma chanson préférée de son répertoire, « Quand vous mourrez de nos amours ». Tout le monde a parlé d'amour, parce que tout le monde l'a vécu, bien ou mal, peut-être plus souvent mal que bien. On n'est pas très adroit là-dedans, on n'est pas très habile, nous, les humains, parce que c'est compliqué. Parce que c'est culturel, parce que ça a un langage, parce que ça a 20, 30 langages, l'amour, et on ne les comprend pas tous. Ce n'est pas un livre, c'est un dictionnaire encyclopédique, l'amour. Gilles Vigneault en parle. Et si on a le moindre sens humain de la mélancolie, on pense à la mélancolie que sera la fin des amours. J'ai écrit quand vous mourrez de nos amours, mais on aurait pu dire quand je, il insiste sur le je, mourrai de nos amours, c'eût été déjà plus poli. Et de meilleur savoir-vivre. L'importance de croire. L'icône en est ainsi constamment à se moquer de sa voix atypique et à commenter ses chansons comme si tout était perfectible, comme si trop s'enorgueillir de son propre travail serait le plus gênant des péchés. L'idée maîtresse de son Jean du pays, il reconnaît l'avoir empruntée à une autre de mes préférées, Tomber la nuit, dans laquelle il affirme qu'il n'est de vrai que nos amours. J'ai référé à ça parce que j'étais mal pris, se remémore-t-il au sujet de la naissance de l'hymne national québécois, que ses amis Yvon Deschamps et Louise Forestier lui ont enjoint d'écrire. Ça donnera cette lumineuse phrase qui émaille un des couplets méconnus de la chanson créée en 1975. Le temps que l'on prend pour dire « je t'aime » est le seul qui reste au bout de nos jours. « Écoute, dit Vigneault, c'est un jour important, le jour de ta fête. Et le temps qu'on a pris pour dire « je t'aime », c'est très important. C'est la substantifique moelle, comme disait Rabelais, de ce qui nous reste après. C'est la seule chose qui nous reste. Le temps qu'on a pris pour dire à quelqu'un « je t'aime ». Puis nous parlons de foi, pas nécessairement de celle qu'on peut avoir en un Dieu, mais de celle grâce à laquelle on continue de se lever chaque matin. Je suis fier de voir que les Québécois croient en eux-mêmes, explique-t-il. Quand on croit, il ne faut pas être avare de sa foi. Il faut croire beaucoup. Imaginez la foule qui est prise pour croire dans l'autre qui est là, qui prétend chanter, qui fait semblant de danser. Il se fait rire lui-même. Puis là, je ne parle pas rien que pour moi. La foule est là, puis elle ajoute foi à ce qu'on dit. C'est énorme, c'est précieux, c'est un sacerdoce. Gilles Vigneault s'est levé, m'a serré la main et a filé vers sa maison nourrir ses chiens. Trois citations tirées de notre entretien à propos de la langue française. Elle me procure le même type de plaisir que lorsque je plante un arbre ou une betterave ou de la salade. Quand je plante un arbre, il y a un plaisir. On est en train de donner, en quelque sorte, vie à quelque chose. Et une chanson, on donne une vie intellectuelle à ça. Parce qu'une chanson, on croit toujours qu'on l'a fait tout seul. Mais non, on l'a fait avec la foule. À propos de l'évolution du peuple québécois depuis 1965, les Québécois ont changé, beaucoup pour le mieux, parce que les Québécois sont devenus plus respectueux des femmes, plus respectueux de l'autre. Ils n'ont pas pour autant perdu toute la foi en eux-mêmes et peut-être en Dieu. Ça, c'est le choix de chacun. Mais il faut croire en soi et il faut croire en l'autre. À propos de la sagesse, il paraît que ça vient avec l'âge. Je fais des efforts pour y parvenir. J'aurai 97 ans à l'automne 2025 et je ne m'estime pas encore du tout comme un vieux sage. Je m'estime comme un vieux, mais comme un vieux sage, c'est très exagéré. C'était, avec Gilles Vigneault, Il n'y a de vrai que l'amour, un texte de Dominique Tardif, paru le 21 juin 2025 dans la presse.
Personne ne peut être moi à ma place. Une chronique de Félix Morin, paru le 10 juin 2025 dans Les Libraires. Si tu me permets, j'aimerais te dire que le désespoir ne mène nulle part, qu'il y a toujours quelque chose à faire. Je le sens dans ta voix, ta manière de parler de la marche du monde. Tu portes l'impuissance dans ton regard, comme on porte un drapeau blanc après la bataille. Si nous sommes nombreuses et nombreux à voir, comme toi, le faisceau des pouvoirs qui nous enserrent, ce n'est pas seulement pour être lucides face à l'érosion de nos démocraties. C'est surtout pour réactiver un sentiment d'urgence et un espace d'inventivité qui nous manque cruellement. Ne l'oublie jamais, l'impuissance est un récit qu'on nous raconte. C'est une fiction qu'ils veulent voir advenir. Une expérience à tenter. Je ne sais pas si tu es comme moi, mais lorsque la tempête se lève, je cherche des ressources d'intelligence dans les livres qui composent ma bibliothèque. C'est dans ce refuge de pages et de sens que je t'invite à prendre mon exemplaire de « Libertés urbaines » de Patrick Boucheron. Dans son plus récent livre, il revient sur ses premières amours de chercheur, l'histoire des villes italiennes. En puisant dans ce qu'il a longuement développé dans son maître livre, Conjurer la peur, il nous rappelle que ce qui l'intéressait dans l'Italie communale et post-communale des 13e et 14e siècles, c'était le fait qu'on puisse y lire l'expérience la plus cuisante de l'abandon des libertés publiques. Tu vas nous reconnaître dans ce livre, lorsque cet historien des pouvoirs décrit le passage des communes italiennes vers la seigneurie comme une entreprise de subversion politique, rendue possible parce que le pouvoir autoritaire des seigneurs devient à un moment donné séduisant, attirant, et que l'on considère alors qu'après tout, c'est une expérience à tenter. Entends-tu ce genre de phrases? Si je te le demande, c'est parce que je commence à les entendre autour de moi. N'oublie pas, c'est toujours par le langage que nous plions en premier. J'insiste, prends mon exemplaire parce que tu pourrais voir que Patrick Boucheron nous aide à saisir que l'aspiration démocratique a toujours comme horizon la déception. Pas tant pour ce qu'elle nous empêche de faire que parce qu'elle ne peut conjuguer tous les espoirs en même temps. Nous en sommes peut-être rendus au moment où nos espérances nous font perdre de vue ce que la démocratie nous donne comme liberté et protection. Cependant, et c'est là que la leçon est pour aujourd'hui et pour nous toutes et tous, c'est dans les moments où cette fatigue se manifeste et qu'il nous faut endurer un moment faible que politiquement survient le risque. Nous sommes au moment du danger, pour paraphraser Walter Benjamin. Il est à nos portes. Résister. C'est cette même urgence qui traverse Résister de Salomé Saké. L'as-tu lu? Dans ce livre, elle montre avec précision comment l'extrême droite est dangereusement proche de se faire élire en France. Elle décrit avec patience et précision comment leurs thématiques, leurs narratifs et leur vocabulaire occupent maintenant le champ médiatique et politique français. Or, l'aspect le plus intéressant de cet essai, tu verras, se trouve dans son invitation à créer de nouveaux récits. Et ainsi, selon l'expression du sociologue Geoffroy de Laganerie, à faire le temps politique. Je t'entends déjà me demander ce que l'imaginaire peut bien faire dans le marasme actuel. pour cette journaliste chez Blast, l'imaginaire a cette capacité phénoménale de nous transporter ailleurs, de proposer une alternative qui ne soit pas seulement critique, mais une véritable révolution de nos manières de vivre ensemble. On s'en parle souvent de cette idée. Il faut dépasser la critique. Je suis d'accord avec elle. Cette réappropriation du monde par l'imaginaire, par la créativité, constitue le préalable à nos révolutions futures et la véritable force de résistance contre les élans de repli et de haine. Prenons par exemple, comme elle le fait elle-même dans « Résister », la cérémonie d'ouverture des JO de Paris, dont Patrick Boucheron était le co-auteur. Cet événement sportif et artistique a montré une image de la France plurielle, créative et célébrant son patrimoine. Elle a montré un autre récit et une autre manière d'habiter l'héritage historique de ce pays. Elle a nourri l'effervescence et l'enthousiasme d'un espace symbolique inclusif. Salomé Sacquet pointe que si l'extrême droite cultive ses emblèmes, ses icônes, ses incarnations, certains considèrent utile de réinvestir certains symboles qu'elle s'est accaparés. C'est ce que cette cérémonie m'a montré. C'est important que tu l'entendes. Une autre manière d'habiter notre imaginaire démocratique est possible. La joie est ce que nous avons à offrir. Et toi, tu dois te demander pourquoi je t'interpelle depuis le début. Tu sais que ce n'est pas mon genre. C'est tout simplement parce que nous sommes à l'heure où nous ne pouvons plus nous défiler. Le danger que pointe Patrick Boucheron est réel. Mais son invitation à l'action l'est tout autant. La résistance que Salomé Sacquet appelle chez son lectorat est une incitation à une imagination politique. Les deux livres nous enjoignent d'engager notre responsabilité citoyenne. Nous avons besoin de toi. C'est la leçon que je tire du texte introductif du livre collectif Zone sacrifiée. Revenant sur les enjeux autour de la fonderie Horn à Rouyn-Noranda, les auteurs-autrices nous rappellent que rien n'est réglé. Il faut que tout le monde le sache. Il faut que tu le saches. Et la question politique est peut-être là pour toi et moi. Comment faire en sorte que nous ne puissions plus nous dérober face à nos responsabilités. Il existe en chacun de nous une part fragile et essentielle qui ne peut être déposée sur d'autres épaules ou en d'autres cœurs. C'est cette partie-là de nous, cette part indélégable, qui rend le soulèvement de chacun-chacune unique et irremplaçable. Personne, écrit Thoreau, ne peut être moi à ma place. C'est à partir de cette vérité que nous agissons. Et toi maintenant, que feras-tu? C'était Personne ne peut être moi à ma place. Une chronique de Félix Morin, parue le 10 juin 2025 dans Les Libraires.
La bonne fortune de Fortune Feimster, une entrevue réalisée par Richard Burnett, parue le 19 juin 2025 dans le magazine Fugue. La vedette de l'humour stand-up Fortune Feimster a eu son gros break en 2010 au Festival Juste pour rire de Montréal, où elle a participé à un showcase New Faces of Comedy. C'est le plus grand festival d'humour au monde et cette vitrine lui a ouvert bien des portes. Elle est de retour cet été en tête d'affiche d'un gala le 26 juillet, dans le cadre de la 43e édition du festival Juste pour rire, qui se déroulera dans plusieurs salles de Montréal. Cette édition marquera aussi le début d'une nouvelle ère audacieuse pour le festival. J'ai parlé à Fortune le lendemain de l'annonce de son divorce à l'amiable avec sa conjointe Jacqueline Smith. Par respect, on a évité ce sujet, ainsi que celui du combat de sa mère Ginger contre le cancer. Voici notre discussion franche et chaleureuse. C'était comment grandir à Belmont, une petite ville en Caroline du Nord? Est-ce que tu t'es rendu compte, jeune, que t'étais différente? J'ai eu une super belle enfance. Ma ville natale est vraiment cute, puis les gens sont super gentils. Mes parents vivent encore là. Quand j'étais jeune, vu que c'était un petit milieu, j'avais le goût de voir plus loin, d'élargir mes horizons. J'essayais pas de fuir, j'avais un bon réseau autour de moi. Mais c'est vraiment en arrivant à l'université que j'ai commencé à me rendre compte que j'étais différente, en rencontrant du monde de plein d'horizons. En 1998, t'as été présentée à la société au bal des débutantes de Gastonia. Comment t'as vécu ça? Oh boy, j'ai fait ça à reculons. Ma mère m'a un peu forcé. C'était pour avoir l'air comme les autres. On n'avait pas une scène, on n'avait pas d'affaires là. Fait que j'ai fait mon coming out deux fois. Une fois comme demoiselle, une autre fois comme personne queer. T'as étudié en communication à Peace College avant de déménager à L.A., où t'as travaillé 7 ans comme journaliste culturel. Est-ce que t'aimais ça? J'ai adoré. C'était une super job de jour. Je rencontrais des gens tripants. J'apprenais les rouages du showbiz, en parallèle à mon rêve de faire de la comédie. Ça me permettait de suivre des cours d'impro au Groundlings le soir, de faire du stand-up. Ça a payé mes bills pendant 7 ans. Mes boss savaient que j'avais d'autres ambitions et ils m'ont toujours encouragé, tant que je faisais ma job. Interviewer des actrices, des réalisateurs, aller sur des plateaux, des tapis rouges, c'était vraiment le fun. Est-ce que ça t'a servi par la suite, tout ça? Tellement. Quand j'ai commencé à écrire pour Chelsea Lately, je me suis dit en entrevue, « Hey, ça fait 7 ans que je jase avec des vedettes puis que je décortique la culture pop. » J'avais déjà les réflexes. Je pensais jamais que ça m'aiderait autant en humour. Écrire, c'est rendu essentiel dans ce que je fais, puis cette job-là m'a permis de pratiquer ça pendant des années. Ton passage à Chelsea Lately, ça a été un moment décisif dans ta carrière? Absolument. Je galérais pour trouver ma place. Le journalisme, ça s'essoufflait, les journaux fermaient. J'ai fini par me lancer à temps plein dans la comédie, sans filet. J'avais presque rien. J'étais passé proche d'être prise à Saturday Night Live 2 fois, puis j'ai pas eu la job. C'était tough. Dans ce temps-là, on valorisait pas encore les gens différents. Mais Chelsea, Handler, elle a vu ça comme un atout. Elle m'a engagé parce que j'étais pas comme tout le monde. Et après ça, d'autres ont commencé à me dire oui aussi. Ça prend quelqu'un en position de pouvoir qui t'ouvre une porte. Elle l'a fait pour moi. Qu'est-ce que t'aimes autant dans la comédie? Faire rire du monde, c'est fou pour moi. Jamais j'aurais cru que je pourrais en vivre. Quand j'étais petite, ça me semblait irréaliste. Mais dès que j'ai découvert ça, j'ai su que c'était ça que je voulais faire, coûte que coûte. J'ai passé des années à en faire sans être payé. Le fait d'en vivre aujourd'hui, puis même très bien, c'est un vrai rêve. Il n'y a pas une semaine où je me dis pas « Est-ce que je rêve? » Est-ce que c'était difficile d'être out comme humoriste à tes débuts? J'ai décidé dès le départ d'être moi-même. Je voulais pas cacher qui j'étais ou que le public se pose 1000 questions. Je raconte ma vie sur scène, puis ma vie est personnelle. Si j'avais caché ça, j'aurais eu l'impression de mentir. C'est qui je suis. Si ça te plaît, tant mieux. Si ça te plaît pas, ben, change de poste. Moi, je dis à tout le monde, soyez vous-même, cachez-vous pas. Avant, à Juste pour rire, il y avait des séries comme Queer Comics. Est-ce que tu trouves que les humoristes queer sont mieux intégrés dans le milieu aujourd'hui? Quand j'ai commencé, on avait des soirées queer où on n'était pas en compétition avec les bros. On créait nos propres espaces. Le public était ouvert. On se sentait en sécurité. Mais il fallait aussi apprendre à affronter d'autres salles, moins accueillantes. J'ai appris à jongler avec les deux. Aujourd'hui, je sens que les choses sont pas mal plus intégrées. Le monde valorise l'individualité, puis j'en suis reconnaissante. C'était pas comme ça à mes débuts. Être différent, c'était un handicap. C'est beau de voir le changement. Tu te vois comme une humoriste queer ou juste une humoriste qui est queer? Je suis juste une humoriste. Être queer, c'est une grosse partie de mon histoire, oui, puis j'en parle beaucoup. Mais mon but, c'est de faire rire le monde. Comment tu te sens à l'idée d'être un modèle pour plein de gens, notamment pour les questions LGBTQ+ et la diversité corporelle? J'essaie de bien utiliser ma plateforme. Si être authentique peut aider quelqu'un, je prends ça très au sérieux. Ça me touche profondément. Je suis une grande fille, je l'ai toujours été, puis il y a plein de gens qui me ressemblent. Si je peux aider d'autres à se sentir bien dans leur peau, j'en suis fier. J'ai mes défauts, je les connais, mais j'aime qui je suis. Et si ça peut inspirer quelqu'un d'autre à s'aimer, tant mieux. Soyez qui vous êtes et aimez-vous comme vous êtes. Je me rappelle, en 2018, tu faisais un petit théâtre à Off Just for Laugh. Là, tu reviens pour animer un gala. C'est fou. C'est la première fois que j'anime un gala, puis c'est un vrai honneur. J'avais peur que Just for Laugh soit fini. On était tous inquiets. Ce festival-là, c'est une place unique pour les humoristes, une vraie communauté. C'est aussi un tremplin pour les nouveaux talents. Le fait que ça revienne, je suis full excité. J'avais envie d'être là, de faire partie du renouveau. Ça va être grandiose. Passer de New Faces en 2010 à animatrice d'un gala, c'est la boucle qui se boucle. C'était La bonne fortune de Fortune Meister, une entrevue réalisée par Richard Burnett, parue le 19 juin 2025 dans le magazine Fugue.